Bonsoir, merci d'être venu à ce mardi d'éthique publique. Dilexité, je t'ai aimé. Cette phrase de l'Apocalypse a été choisie par Léon XIV pour ouvrir sa première exhortation apostolique, signée le 4 octobre, jour de la fête de François d'Assise, le saint patron des pauvres. Ce texte fait écho à Dilexit Nos, la dernière encyclique de François, Il nous a aimés, que le pape, la dernière encyclique de François, le pape défunt avait commencé à rédiger Dilexité avant son décès, a d'ailleurs indiqué le Vatican, sans préciser dans quelle proportion. Dilexité place les pauvres au centre de la vie chrétienne, pas en marge, pas comme une préoccupation comme une autre, mais au cœur de la mission de l'Église. Une église qui a fait le choix préférentiel des pauvres. Cette expression, familière depuis des décennies, résonne ici avec une urgence renouvelée. Mais que signifie-t-elle aujourd'hui? Dilexité est-elle une simple reprise du discours traditionnel de l'église ou une inflexion majeure? Comment se situe Léon XIV par rapport à François, qui n'a cessé de dénoncer la culture du déchet et les inégalités mondiales? Et au-delà des mots, la question nous bouscule. Que change Dilexité pour nos sociétés fracturées, où la pauvreté ne se limite plus à une misère matérielle, mais touche aussi à l'exclusion, la solitude, la maladie, la précarité écologique? Comment traduire cette option préférentielle dans nos choix politiques, économiques et dans nos vies personnelles? Sommes-nous prêts à entendre que la justice sociale n'est pas une option, mais une exigence spirituelle? Comme l'écrit Léon XIV, là où les pauvres sont oubliés, c'est le visage du Christ qui disparaît. Pour en débattre, nous avons la chance d'avoir deux voix engagées, deux voix VOX. Marie Toussaint, vous êtes eurodéputée écologiste, vice-présidente du groupe Les Verts Alliance Libre Européenne et vice-présidente ou présidente de l'intergroupe de lutte contre la pauvreté. Vice-présidente. Présidente. Et vos parents ont été permanents du mouvement ATD Quart-Monde. François Audinet, vous êtes aumônier général du Secours catholique, théologien et maître de conférences ici, aux facultés Loyola Paris, et vous donniez un cours, c'est ça, ou juste avant de cette conférence. On va commencer avec vous. Dilexité réaffirme le choix préférentiel pour les pauvres. En quoi ce principe est-il constitutif de la foi chrétienne et non simplement un engagement social?
Merci beaucoup, bonsoir à tous et à toutes. De fait, c'est sans doute un bon résumé que de poser la question comme ça pour lire Dilexité. Est-ce que le choix préférentiel, le choix prioritaire des pauvres est quelque chose de facultatif ou quelque chose de central? Peut-être c'est bien que je commence en disant, au cas où il se trouverait parmi ceux et celles qui nous écoutent, une personne qui n'aurait pas lu cette exhortation peut-être apostolique, dont je signale qu'en plus d'être courte, elle est simple. Je dis quelque chose juste du plan. C'est une exhortation qui donc a été rédigée à quatre mains, hein, qui a été préparée par le pape François, et puis sa mort l'a empêché bien sûr de la publier, et donc le pape Léon l'a non seulement reprise, mais aussi complétée, et puis il l'assume en son nom. Alors, on y trouve cinq chapitres, un premier chapitre qui montre de quelles questions part le pape, et puis ensuite une très longue relecture de l'histoire, un deuxième chapitre avec une relecture biblique, un troisième chapitre de loin le plus long avec une relecture de l'histoire de l'Église, avec des figures très variées dans lesquelles on trouve des papes et des évêques, des religieux et des religieuses, des mouvements engagés politiquement et des communautés, des hommes et des femmes, et le pape d'ailleurs insiste sur des hommes et des femmes,
et beaucoup de
etc.
Français. Et beaucoup de Français.
Et un certain nombre de Français, c'est vrai, oui, pas que, mais un certain nombre de Français, c'est vrai, tout à fait. Et puis, le quatrième chapitre reprend l'histoire à partir de la fin du XIXe siècle, en disant c'est le moment où commence la doctrine sociale de l'Église, indéniablement, mais c'est aussi le moment où le système des échanges économiques évolue de façon si forte que l'Église catholique se positionne différemment et se trouve face à des questions qu'elle n'avait pas forcément eu besoin de se poser avant. Alors là, il relie Vatican II, la théologie de la libération, j'y reviendrai. Et puis un cinquième chapitre qui se positionne sur les questions les plus actuelles. Alors tout à l'heure, vous demandiez, est-ce que c'est une pure répétition de ce qui a précédé ou est-ce qu'il y a une inflexion ? Moi, je dirais, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un style assez particulier, une relecture d'une longue tradition, parce qu'en fait, le rappel de cette longue tradition occupe de loin la plus longue partie de l'exhortation, mais c'est une relecture actualisante. C'est-à-dire, c'est le rappel d'une tradition, mais à partir de questions qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, l'exercice est assez intéressant. On peut dire que c'est très pontifical. Le pape, doit assumer la longue tradition de l'Église avec ce qu'elle a de meilleur, aussi avec ce qu'elle n'a pas de meilleur. Et il le fait précisément, non pas en disant ce qui s'est toujours fait ou les questions telles qu'elles se sont toujours posées, mais en lisant à partir des questions de maintenant cette longue tradition. Alors on aura certainement l'occasion de discuter des incidences plus directement politiques de dilexité. Je me permets d'en noter trois accents, peut-être plus ecclésiaux, parce que c'est quand même un texte qui, par priorité, est destiné à des lecteurs chrétiens. On dira sans doute catholiques par priorité, mais largement chrétiens. Et alors, il a une réelle répercussion politique ou un message politique, mais qui quand même passe ici après une relecture très directe de la tradition ecclésiale. Alors, trois accents, peut-être le premier, c'est une insistance. Le souci des pauvres, l'engagement avec les pauvres, l'engagement vraiment aux côtés des pauvres, n'est pas quelque chose de latéral, n'est pas une option. Il appartient, dit le pape Léon et François avant lui, au cœur de l'expérience chrétienne. Et un signe de ça, c'est l'insistance sur le rapport entre le culte, la liturgie d'un côté, et l'engagement avec les pauvres de l'autre. Et un rapport qui, dans l'exhortation, est montré comme allant dans les deux sens, du culte vers l'engagement avec les pauvres, et aussi de l'engagement avec les pauvres vers le culte, parce que on découvre dans l'engagement avec les pauvres déjà une forme de présence de Dieu. Au point que le pape dit tellement que c'est central qu'il polémique de façon assez vive contre ceux qui diraient « notre rôle, c'est de prier, de célébrer la liturgie et de témoigner du Christ. » Point. Et bien pas du tout. Il y a un troisième fondamental. Alors, il n'est pas contre le culte ni contre le témoignage rendu au Christ, hein, bien entendu. C'est évidemment des fondamentaux de l'expérience chrétienne, mais il y a un troisième fondamental de l'expérience chrétienne qui tient à l'engagement avec les plus pauvres. Et du coup, la relecture de la tradition vise à attester que ça s'est toujours vérifié. Ça s'est toujours vérifié. Alors, on peut dire qu'il fait une relecture assez favorable, assez optimiste de la tradition chrétienne. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais au moins on peut lui faire crédit que s'il le fait de cette façon optimiste, c'est parce que il veut montrer la permanence, la réalité. C'est pas seulement un postulat de base que ça fait partie de l'expérience chrétienne, c'est quand même comme ça que les chrétiens l'ont vécu. Peut-être un deuxième accent, c'est l'insistance sur la théologie de la libération, qui tient ici une place, qui n'est pas seulement un rappel, mais qui fournit aussi une clé herméneutique, c'est-à-dire une clé qui permet à Léon de relire la tradition. C'est sensible parce que la théologie de la libération, qui s'est développée, je le rappelle, en Amérique latine, après le Concile Vatican II, dans les années 70-80 et suivantes, est une théologie qui a souvent été accusée à Rome, et aussi d'ailleurs en Europe ou en Amérique du Nord, qu'on a accusé d'être trop politique, c'est-à-dire de se soucier de la libération des pauvres sur le plan politique et d'oublier la dimension liturgique ou culturelle. Alors, les théologiens de la libération se sont largement défendus de l'avoir oublié. Ils ont toujours dit que c'était la dynamique évangélique qui les poussait à cette inscription politique. À mon avis, c'était juste, c'est-à-dire c'est vraiment ça qui s'est passé. Mais on peut dire que cette théologie, elle a fait l'objet d'une réception très polémique. Et là, il y a quelque chose d'une réconciliation des papes avec la théologie de la libération qui avait déjà été un peu entamée sous François, mais qui, à mon avis, n'a jamais été aussi explicite, au point que quand le pape relit la Bible en disant « il y a une option préférentielle pour les pauvres », qu'on traduit mal, en fait, c'est plutôt un choix prioritaire des pauvres. Il est constitutif de l'Église. Ça, c'est vraiment la théologie de la libération. Mais en plus, c'est Dieu qui fait ce choix. C'est-à-dire, c'est Dieu qui, en premier, choisit de s'engager en personne à l'égard des pauvres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient des théologies de la libération. Et à ce moment-là, Léon ne les cite pas, mais on voit comment, non seulement il se réconcilie explicitement avec cette école théologique, mais en fait elle influence sa relecture de la Bible et de la tradition.
Parce que nulle part, il cite la théologie de la libération comme telle.
Alors il cite la théologie de l'Amérique latine, et il cite un document de 84 qui prend position sur la théologie de la libération.
C'était Aparecida ou c'est ça?
Alors il cite aussi beaucoup Aparecida, c'est 2008. Aparecida c'est une assemblée de l'église latino-américaine. Il cite quand même au passage Medellin, c'est-à-dire les grandes assemblées de l'église latino-américaine. Quand même, je signale que il cite le document venu de Rome, qui était le plus critique à l'égard de la théologie de la libération, et il le cite dans un passage qui approuve les options de la théologie de la libération. Donc il y a vraiment une réconciliation délibérée. Peut-être je dis juste un troisième aspect assez singulier, qui était présent sous François, mais qui là, qu'on retrouve avec netteté, c'est l'insistance sur l'écoute de la voix des plus précaires. Et une écoute qui ici est conçue comme nécessaire pour que nous fassions société, nécessaire d'un point de vue politique pour que la démocratie ne s'épuise pas ou ne s'épuise pas trop, sans doute on pourra y revenir, mais qui est aussi conçue comme nécessaire pour l'Église. En disant, il y a quelque chose pour l'Église de la fidélité à sa propre mission qui dépend de sa capacité à écouter les voix des pauvres, à écouter comment les pauvres nous enseignent l'actualité de l'Évangile. En disant, il y a quelque chose de l'actualité de l'Évangile que nous ne percevrons pas, non seulement loin des pauvres, ça c'est sûr, on ne l'apercevra pas loin des pauvres, mais même qu'on ne percevra pas si nous ne nous mettons pas à l'écoute des pauvres. Et Léon XIV est assez attentif, non seulement aux voix des personnes, notre capacité à ne pas entendre les cris, notre capacité à ne pas les entendre à cause de préjugés, mais aussi il est attentif aux structures communautaires qui permettent concrètement à des personnes précarisées de faire entendre leur voix. C'est-à-dire, il n'est pas naïf sur le fait qu'individuellement, un baptisé bienfaisant veuille entendre une personne qui connaît la précarité. Il est très, très clairvoyant sur les structures communautaires qui sont nécessaires pour cela. Donc cette attention à l'écoute de la voix des pauvres comme une dimension de leur libération, c'est-à-dire comme cette idée que c'est seulement en les écoutant qu'on pourra, non pas seulement les libérer, dit Léon XIV, mais marcher avec eux sur le chemin de leur propre libération. Là, il y a toute une pédagogie, tout un repositionnement, les écouter pour marcher avec eux sur le chemin de leur propre libération. Bon, voilà, un tout petit aperçu de Dilexité.
Merci beaucoup. Alors Marie, comment est-ce que vous avez-vous reçu ce texte ?
C'est bon cette fois, oui. Ouais, c'est bon. Je l'ai reçu très bien. Il m'a beaucoup parlé, mais je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, bonsoir. Je suis venue ici malgré les microbes. J'ai affronté la tempête. Donc si je me mets.
Bordeaux.
Je suis venue de Bordeaux, j'ai aussi affronté les pannes de tramway. mais du coup, si je me mouche, si je tousse, vous ne m'en tiendrez pas rigueur, également si je perds mes mots. Mais c'était vraiment important pour moi d'être là avec vous, justement parce que ce texte est crucial. En fait, quand j'ai lu à votre invitation, hein, je pense que je l'aurais pas lu, pour être parfaitement honnête et transparente, sans votre invitation. Mais quand j'ai lu ce texte à votre invitation, j'y ai trouvé... peut-être quelque part la philosophie, alors théologique sûrement, j'apprends des choses aussi en écoutant Monsieur Audinet, mais aussi la philosophie politique qui est la mienne. Et je vais dire pourquoi, mais juste pour commencer, vous l'avez mentionné, je suis fille de volontaire permanent d'ATD Quart-Monde. Y a des amis d'ATD Quart-Monde qui me connaissent depuis toute petite dans la salle, voilà, donc ça me met une grande pression. On est toujours petit face à ceux qui qui nous ont vu grandir. ATD Quart-Monde a été créé par un prêtre qui s'appelait le père Joseph Rezinski, et qui a écrit un ouvrage qui est l'un des ouvrages peut-être les plus chers à mon cœur, aussi parce qu'il l'avait dédicacé à ma grand-mère, et donc voilà, j'ai cette trace avec moi, mais qui s'appelle « Les pauvres sont l'Église ». Et je crois que toute ma vie, j'ai grandi avec cette idée, je suis d'une maman et d'une grand-maman catholique, assez croyante, pratiquante, mais aussi d'un papa laïque, et d'ailleurs dans son exhortation, le pape fait mention de ces mouvements laïques qui accompagnent cette même bataille finalement contre la pauvreté et pour la libération de toutes et tous. Mais je crois que c'est vraiment cette philosophie-là qui a guidé ma vie, qui guide mon engagement et qui se rappelle à moi régulièrement. Et j'ai envie de dire que la façon dont je déploie à la fois ma vie personnelle et ma vie politique, mon engagement politique, j'aimerais, et je n'y arrive pas, notamment parce qu'il y a des sacrifices que je ne suis pas prête à faire, mais j'aimerais qu'ils répondent à cet adage qui dit que les pauvres sont mon peuple. Voilà. Que mon peuple sont les pauvres. Et c'est cette voix-là que j'essaye de porter. À TD Quart-Monde, des membres d'ATD Quart-Monde ont d'ailleurs écrit « Les pauvres sont nos maîtres ». Et c'est peut-être avec cette première idée que je veux commencer pour dire que finalement, la première chose que j'ai trouvée dans cette exhortation, c'est un appel à la dignité. Et d'ailleurs, elle commence par la référence à la dignité humaine. Et finalement, au fait que on est aujourd'hui dans une société, alors je reviendrai pas sur le modèle économique, on y reviendra peut-être un peu après, mais on est dans une société dans laquelle finalement on reproche, et cela il le dit tout au long de l'exhortation, on reproche aux pauvres d'être responsables de leur situation. On dit d'eux qu'ils ne sont pas assez méritants. D'ailleurs, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu, qu'il dit « Mais dans quel monde on vit ?» Alors, c'est pas mot pour mot, mais « Dans quel monde on vit si seuls ceux qui ont réussi leur vie ont du mérite ?» Et c'est vrai. Chacun a du mérite. Et d'ailleurs, chacun naît, normalement, avec une égale dignité. Et cela, je crois que c'est aussi une leçon de l'Évangile, une leçon de Dieu, qu'on soit croyant, ou une leçon spirituelle de toute manière pour tout le monde. Et de ça, il dit, la dignité, celle dont chacun est censé être doté, a été finalement bouleversée par l'homme. Et il nous faut aujourd'hui renverser cette logique pour dire que, eh bien, la faute pèse sur la société qui tolère qu'en son sein vivent des personnes dans des conditions indignes. La faute n'est donc pas celui du pauvre. Il parle pas de mot, il n'utilise pas le mot faute. Mais enfin, il y a le mot péché quand même de temps à autre. La faute n'est pas celle de la personne qui vit dans une situation de pauvreté, qui a tant à nous apprendre sur les façons dont elle relève les défis de la vie, et notamment dans l'amour, mais dans la société qui se montre incapable de résoudre ces problématiques. Monsieur Audinet parlait d'une actualisation d'un défi très actuel, et je crois qu'en effet, on est dans un défi extrêmement actuel d'une espèce d'accroissement des inégalités extrêmement profondes qui est soulignée dans ce texte, qui dit à la fois on a des pauvres de plus en plus nombreux, pas seulement dans les pays des Suds, pas seulement dans les pays en développement, mais il cite explicitement l'Europe où la pauvreté explose, et en parallèle, des élites de plus en plus riches qui finalement se rendent coupables, fautives, de ne même plus voir, d'avoir une indifférence, mais même de ne plus voir le fait que, eh bien, il y ait des personnes qui vivent dans une telle misère, quels que soient les efforts qu'elles fournissent et les mérites dont elles font la preuve. Et je crois qu'à travers ça, il fait vraiment référence aussi au texte de François qui parlait d'amour. Et je pense que c'est une notion qui mérite aujourd'hui d'être replacée au cœur du débat, la dignité, l'amour, la tendresse, non pas comme une faiblesse, mais comme un courage, comme une puissance. Et je pense notamment au livre « La puissance de la douceur » d'Anne Dufour-Mantel, qui est un livre qui fait aussi écho aux discussions qu'on a aujourd'hui. La deuxième chose qui me semble ressortir de ce texte, c'est cette option préférentielle pour les pauvres. En fait, ça découle un peu du premier point, mais le fait de dire finalement, il parle de charité en disant peut-être que ça a été détourné, mais en même temps, la charité est aussi une responsabilité pour nous dans le monde d'aujourd'hui. Et il dit finalement, ce cri des pauvres, ce qu'ils ont à nous dire, il faut l'entendre, non pas comme une main tendue du haut vers le bas, mais non pas comme une bienfaisance, mais finalement comme une révélation. Une révélation sur l'état de la société, en soulignant quand même que nous, et donc je vous disais tout à l'heure, j'essaye de vivre selon cet adage « les pauvres sont mon peuple », mais à la fois il y a des sacrifices que je suis pas prête à faire, des sacrifices qu'ont pu faire les membres d'ATD Quart-Monde d'ailleurs, mais il dit il faut prendre les choses avec humilité parce qu'évidemment, nous nous sentons plus à l'aise sans les pauvres. Et pourtant, je crois que c'est un impératif permanent qui se pose à toutes les sociétés, à travers le temps et l'espace, que de dire il faut une option préférentielle pour les pauvres. Il faut que dans chaque geste, dans chaque décision, dans chaque pensée, dans chaque prière aussi, eh bien, il y ait cette prière pour les pauvres, pour qu'ils puissent se libérer de leurs conditions avec nous à leur côté. Alors, je suis allée vite sur ça. Je pense qu'on aura la possibilité d'évoquer les aboutissements politiques de ce constat. Mais mon troisième point, qui est assez important et qu'il évoque en parlant à la fois de l'action de l'Église, la façon dont elle s'est inscrite dans le temps, sûrement en cachant certains pans de l'histoire de l'Église voilà, qu'on peut connaître aussi, mais c'est aussi au moment où il évoque tous ces mouvements laïcs qui ont pu se battre. Et il insiste sur le fait qu'il nous faut non pas agir vers ou pour, mais sans les plus pauvres, mais en permanence avec les plus pauvres. Et j'ai noté une phrase qu'il a écrite, mais je pense qu'il citait déjà quelqu'un, où il dit « Il faut oser créer des lieux, des espaces, des maisons où vivent et marchent les pauvres. » Et j'ajouterais, mais ça c'est moi, voilà, mais j'ajouterais où ils puissent vivre et marcher debout. Parce que je crois que c'est vraiment la leçon voilà, de cette exhortation, la leçon qu'en tout cas moi je tire et que je réinterprète, et que ce n'est pas encore une fois aux pauvres de se débrouiller pour se permettre même de vivre et de marcher debout, mais c'est bien à la société, à notre société, à nous humains, à la fois individuellement, de façon communautaire ou en tant qu'État, qu'Europe ou que société internationale, de permettre de créer cet espace pour pouvoir agir ensemble et non pas agir au nom d'eux ou à la place d'eux.
Merci. François, vous voulez réagir ?
Volontiers, je réagis sur deux points. Le premier, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit de la douceur et de l'amour. Mon cœur du Secours catholique résonne à ça, parce que l'objet du Secours catholique, c'est de rayonner la charité chrétienne. Donc, charité, amour, c'est le même mot en latin, caritas. Et c'est un mot qui n'est pas si facile à utiliser, évidemment. Alors, on a besoin de l'articuler avec la justice. Mais moi, j'ai été très touché par la manière dont le pape lit le passage biblique où une femme oint Jésus, oint les cheveux de Jésus, la tête de Jésus, d'un parfum de grand prix. Et les disciples, l'évangile le raconte, les disciples s'indignent de ce geste en disant bah, « il aurait mieux valu utiliser l'argent pour les pauvres et pour le donner aux pauvres ». Et en fait, Léon XIV ici se montre attentif à ce geste de tendresse, à ce geste de douceur, en disant « mais ceux qui vivent des galères redoutables savent le prix de cette tendresse ou de cette douceur gratuite ». Et ça me semble un aspect de l'exhortation qui est vraiment touchant, qui est beau. Et en même temps, il est précieux parce qu'il est articulé avec la libération. C'est-à-dire, il y a le terme de compassion et il y a le terme de libération. Il y a une insistance sur cette douceur qui se joue dans une relation d'une personne avec une autre personne. Et en même temps, il y a cette insistance sur le combat contre les causes structurelles de la pauvreté, ce qu'il nomme. Et pour moi, il y a une justesse parce que le texte marche sur les deux jambes. C'est-à-dire qu'il ne délaisse pas la libération, la dimension structurelle ou politique au profit de quelque chose qui serait uniquement compassionnel, mais en même temps, il ne mise pas tout sur une transformation structurelle en oubliant ce qui se joue maintenant de douceur, de rencontre, de compassion, et en disant combien dans un monde qui demeure imparfait, même si on travaille pour qu'il soit meilleur, eh bien la compassion, la douceur remet de l'humanité, remet aussi des signes de Dieu qui peuvent d'ailleurs ne pas se dire, mais qui sont des signes de la puissance de Dieu. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, donc je fais volontiers écho à ça. L'autre chose, je suis sensible à votre accent sur le fait que les personnes précarisées soient debout. Et de fait, on est avec ce texte assez loin de l'idée que les pauvres subissent passivement ce qui les opprime et ils attendent que nous nous portions vers eux. En fait, Léon, comme d'ailleurs François avant lui, insiste sur le fait que les personnes en précarité déjà se battent, en fait qu'elles nous ont pas attendus pour se battre, mais que pour que les armes soient égales, elles peuvent pas se battre seules. Voilà. Il y a cette idée qu'il y a besoin de les rejoindre, mais que leur combat de libération, il a déjà commencé, elles nous ont pas attendus. Et en particulier, il est sensible au travail qu'effectuent les plus pauvres. Alors, il insiste sur l'accès au travail digne, j'espère qu'on pourra y revenir, mais bien avant ça, dès le départ, dès le premier chapitre, il insiste sur le fait qu'on prend les pauvres pour des paresseux, alors qu'en réalité, ils ont une vie où ils n'en finissent pas de travailler, alors même que parfois, ils ne peuvent pas raisonnablement penser que leur condition va s'améliorer, tellement l'adversité est grande. Mais ils n'en finissent pas de travailler. Et donc, cette attention, non pas à se porter vers les pauvres qui nous attendraient, mais au fait que les plus précaires déjà se battent, travaillent, inventent, mais qu'ils ont besoin pour qu'il y ait une libération réelle, que d'autres s'allient avec eux, ça me semble un accent précieux, donc j'ai été aussi sensible. Oui.
Marie, vous voulez... Non, on va passer la parole là à la salle. Des questions ? Non ? Non, ben je vais... Quand Léon XIV écrit « Là où les pauvres sont oubliés, c'est le visage du Christ qui disparaît », qu'est-ce que ça veut dire ?
Moi, cette phrase, elle fait beaucoup écho à une autre phrase du père Joseph Rezanski. Je suis désolée, je veux pas vous rabâcher, mais qui est quand même gravée à la fois sur l'esplanade du Trocadéro, devant la Tour Eiffel, dans l'entrée du Conseil économique et social français, dans plein d'autres endroits du monde, et depuis devant le Parlement européen, ce dont je suis vraiment fière, et qui dit « Là où un homme est condamné à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré ». Voilà, et cette phrase, elle fait écho à celle-ci, et peut-être pour vous dire à quel point c'est important de s'en parler, à quel point cette exhortation, elle est importante, et il est important de la faire connaître, et donc vraiment merci de cet échange et de tout ce que vous faites dans ce sens-là. Aujourd'hui, on est dans un moment où cette phrase, cette reconnaissance que l'extrême pauvreté, que la misère était une violation des droits humains, qui sont normalement indivisibles, voilà, eh bien, cette reconnaissance-là, qui était, qu'on pensait universelle, qu'on pensait très large, est aujourd'hui remise en cause. Et cet intergroupe de lutte contre la pauvreté au Parlement européen, il a été créé en 1984, à l'impulsion d'ATD Quart-Monde à l'époque, j'étais pas née, c'était pas de mon fait, mais il a été renouvelé et il s'intitulait « Intergroupe de lutte contre la pauvreté et pour les droits humains », ou alors « et droits humains ». Voilà. Et quand, en 2024, j'ai souhaité reprendre cet intergroupe qui avait perdu beaucoup de sa force, de sa vigueur, de son activité, j'ai dû aller toquer à la porte des différents groupes politiques, et la droite m'a répondu « Écoutez, on peut vous soutenir, mais il ne s'appellera que Intergroupe de lutte contre la pauvreté. » Et on enlève la partie évoquant la question des droits humains. Et très récemment, l'un de mes collègues, qui est en fait mon coprésident,
vous avez accepté.
Je suis coprésident, ben, j'ai accepté parce que je voulais que l'intergroupe vive.
Soit vraiment un intergroupe.
Voilà. Bon, alors j'étais pas fière, mais bon. Et j'ai un coprésident et moi je voulais que voilà les différents forces politiques soient représentées. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas. Mais j'ai un coprésident que je suis allée chercher et qui lui est bulgare, centriste. Et très récemment, il me parlait du rapport qui est en train de rédiger le Parlement européen sur la première stratégie de lutte contre la pauvreté européenne qu'on attend pour mi-2026. Et il me dit, bon, les négociations sont difficiles. Donc il me cite plusieurs sujets sur lesquels c'est difficile. Puis il me dit, et puis ils veulent écrire que la pauvreté est une violation des droits humains. Et alors ça, c'est hors de question. Voilà, donc les négociations sont encore en cours. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ce qu'on pensait être établi, affirmé, est en train de disparaître et qu'on a vraiment besoin de ce type de propos, de paroles pour réinscrire cette nécessité, cet impératif absolu de préserver la dignité humaine et de considérer que la pauvreté, la misère est une violation de la dignité humaine.
C'est étonnant la réaction de votre coprésident, enfin de votre vice-président. François ?
Oui, je veux bien repartir de cette question des droits humains. C'est vrai que donc chez Joseph Wresinski, il y a vraiment cette conviction que c'est quelque chose de la dignité qui pourtant appartient aux personnes, mais qui est niée par la précarité. C'est comme si, de façon collective, on faisait signe aux personnes qu'elles ne possèdent pas cette dignité, que pourtant elles possèdent. Et en même temps, il y a cette lucidité qui est de dire, très concrètement, la misère ne permet pas d'exercer un certain nombre des droits humains qui pourtant sont inaliénables. Donc il y a pas qu'un aspect théorique, mais un aspect vraiment très concret dans l'impossibilité de les exercer. Et alors justement, dans Les pauvres sont l'Église, Joseph Rezinski rapproche, ça m'a longtemps fait réfléchir parce que c'est étonnant, rapproche les droits humains et les droits de Dieu. Alors c'est assez original quand on sait que la pensée des droits humains, elle s'est parfois affrontée au XIXe siècle, notamment à une pensée des droits de Dieu. En fait, on a opposé les deux. Et Joseph Rezinski insiste pour dire, veiller sur les droits humains en combattant la pauvreté, affirmer les droits humains, les faire respecter en combattant la misère, la pauvreté, ça fait partie aussi de l'affirmation des droits de Dieu. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est que une église qui tolère la misère montrerait un faux visage de Dieu. C'est une église qui ne se bat pas concrètement contre la misère, mais aussi, et vous parliez de la prière, une église qui, dans sa prière, ne s'indigne pas de la misère et ne crie pas devant Dieu, montrerait un faux visage de Dieu. Et du coup, l'humanité, puisque nous croyons que c'est un être humain, le Christ, qui montre le visage de Dieu et que dans notre humanité, nous voyons quelque chose de Dieu, une humanité dans laquelle on s'accommode de la misère montrerait un faux visage de Dieu. Il y a quelque chose des droits de Dieu qui sont non pas seulement que la misère est disparue demain matin, mais que au moins nous nous battions collectivement et nous ressentions qu'il y a là un appel pour toute l'humanité parce qu'il en va de notre humanité, donc il en va de Dieu. Si ? Question ?
Oui, c'est pas d'ailleurs tout à fait une question, mais c'est plutôt deux relances parce que l'un et l'autre, vous avez évoqué des sujets en disant « j'espère qu'on pourra y revenir ». Donc je vous donne l'occasion d'y revenir. Mais pour moi, François, tu parlais du travail digne, de l'importance du travail digne. Et Marie Toussaint, vous parliez de la traduction politique de cette exigence. Voilà, si l'un et l'autre, vous pouviez revenir dessus.
Alors, le travail digne est une insistance qui vient à plusieurs reprises de l'exhortation. Elle vient d'abord, donc, encore une fois, avec cette insistance que les pauvres les plus précaires travaillent déjà, alors même qu'on pourrait penser le contraire ou qu'on a un imaginaire axé autour du contraire. Et puis, ça revient à plusieurs endroits en rappelant que la manière essentielle de lutter contre la misère n'est pas de chercher à aider des gens, mais de permettre l'accès à un travail et de permettre l'accès, alors au Secours catholique on dirait à un travail digne, ici il dit au moins à un travail qui respecte la dignité des personnes. C'est assez important de dire un travail qui respecte la dignité des personnes, parce qu'il y a évidemment une possibilité de survivre avec des travaux qui détruisent les gens, qui d'ailleurs au passage détruisent les écosystèmes, etc. Et donc il est clairement pas question ici d'un travail à tout prix, mais de dire il y a un engagement social pour permettre l'accès à un travail digne. Dire qu'on veut le permettre veut dire que le pape a conscience que l'obstacle n'est pas, comme vous disiez, la culpabilité qui serait celle des personnes qui n'accèdent pas à ce travail, mais qu'il y a plutôt un ensemble de ce qu'il appelle structures de péché, reprenant un terme de théologie de la libération, qui sont à convertir. Là où c'est intéressant, c'est que cet accès au travail digne, il le cite, il l'approfondit le plus au moment où il parle de l'aumône. Là, on est vraiment dans la relecture actualisante. Il rappelle la longue tradition chrétienne de l'aumône. Et c'est vrai que quand on lit non seulement les écrits bibliques, mais plus encore peut-être les pères de l'Église, c'était un commandement majeur chez les pères de l'Église, au point que c'était pendant plusieurs siècles le moyen majeur, quand on était déjà baptisé, d'obtenir la rémission de ses péchés. Enfin, vraiment, l'aumône tenait une place centrale. Et Léon XIV le reprend, disant « nous ne pouvons pas oublier cet aspect de notre tradition ». Mais quand même, le premier devoir, c'est d'aider les pauvres à trouver un travail digne. Et l'aumône alors, eh bien, elle est ce qu'on peut faire en attendant. Elle n'est pas ce qui nous dispense de lutter contre les causes structurelles de la pauvreté, mais elle est ce qu'on peut faire en attendant, et elle remet, d'ailleurs il utilise un mot latin qui ne traduit pas, la pietas, elle remet de la pietas, c'est-à-dire cette bonté, cette compassion. Et alors pour moi, cette articulation entre il y a un enjeu de l'accès à un travail digne, c'est un enjeu structurel, social, avec une dimension politique, mais en attendant, l'aumône demeure ce moyen de manifester de la proximité, de la douceur, de la compassion. Ben ça me semble quelque chose de très précieux, une articulation très précieuse où il assume cette longue tradition, mais avec une quand même un appel assez énergique à ne pas délaisser la dimension politique.
Ce qui est très curieux, c'est que ça vient tout à la fin de l'exhortation.
Alors ça vient tout à la fin, mais ça a été longuement préparé, c'est-à-dire que il relit ce que les pères de l'Église disent de l'aumône, il relit la question du travail telle qu'elle apparaît, et puis quand on en arrive au défi actuel, en fait ce qui est actuel c'est ni la question du travail digne, ni la question de l'aumône, c'est la hiérarchisation. on peut comprendre qu'après tout, les pères de l'Église mettaient l'aumône en premier, ils étaient dans un système économique qui n'avait rien à voir avec le nôtre. Mais finalement, dans la situation économique qui est la nôtre, l'enjeu, c'est d'articuler et donc de hiérarchiser la question de l'accès au travail digne et de l'aumône.
Merci. Marie.
Oui, non, et puis moi ce qui m'a frappé aussi, et alors je suis voilà, moins connaisseuse que d'autres des textes des papes, mais sur ce point-là, en tout cas, il est presque à remonter les bretelles des chrétiens, des catholiques, en disant mais voilà, si vous pensez qu'il faut s'arrêter là, à la charité, ou alors si au contraire vous rejetez la charité parce que c'est vraiment pas ça qu'il faut faire, ou je parlais tout à l'heure du paradoxe ou de dignité humiliation, voilà, mais ou si vous justifiez, si vous essayez de trouver des auto-justifications dans le fait de dire les pauvres sont responsables de leur situation, tout ça en fait vous vous trompez. Et il le dit tout au long du texte, il dit voilà, on n'a pas à chercher d'auto-justification à la misère, on construit des idéologies, alors voilà, il les qualifie avec voilà, pas de façon pas très sympathique, mais il faut pas s'enfermer dans des idéologies qui sont des idéologies très actuelles pour se dédouaner finalement de la responsabilité de l'action. Et moi j'ai trouvé ça assez fort parce qu'il remonte vraiment les bretelles de ses lecteurs s'ils ne pensent pas, enfin voilà, s'ils pensent différemment que ce qui est dit. Si finalement ils tiennent la pauvreté pour négligeable, pour méprisable, ou sont dans l'indifférence à cet égard, voilà, on passe un mauvais quart d'heure quand on lit cette exhortation apostolique. Mais sur les questions qui étaient posées, alors il y a plein d'aboutissements politiques à ce que je racontais. Le fait d'agir avec, par exemple, qui était mon dernier point et qui est pour moi absolument indispensable, doit se décliner dans tous les domaines. Avec l'intergroupe, et donc ça j'en suis ravie, et malgré nos désaccords sur d'autres sujets, mais c'est vrai qu'avec les députés des différents membres politiques, on a mis un point tout en haut de nos règles, c'est d'agir en permanence avec les personnes qui expérimentent la pauvreté. Et donc on les rencontre régulièrement, 3, 4, 5 fois par an, ça demande du temps de préparation, ça s'organise, ça s'improvise pas, hein, voilà. On n'ouvre pas juste les portes du Parlement européen et puis hop, il y a une discussion, donc ça s'organise, mais on y met du temps, on y met des efforts, on est accompagné par des associations pour ce faire, à travers toute l'Europe, en plus avec un obstacle de langue, etc. Mais c'est impératif pour nous que on ne continue pas à élaborer, à analyser des politiques visant à lutter contre la pauvreté sans celles et ceux qui sont en premier lieu concernés. C'est aussi notre demande principale à l'égard de la Commission européenne qui élabore sa stratégie. Et ce qu'on essaye de faire passer comme message, mais c'est évidemment compliqué, et ce serait une révolution complète de la façon dont on mène les politiques, mais que c'est qu'en fait, les personnes en situation de pauvreté, elles sont certes concernées par les stratégies de lutte contre la pauvreté qui sont mises en place, c'est une évidence, mais elles sont concernées par tout. Elles sont concernées par les questions d'éducation, par les questions de transport, par les questions environnementales et de politique environnementale évidemment. Elles sont concernées par la digitalisation, soit parce qu'elles n'y ont pas accès, soit parce qu'on a des algorithmes qui les persécutent, au fond, hein, faut dire les choses. Et donc, il faut qu'on arrive à faire en sorte, et je pourrais égrener toutes les politiques, mais il faut qu'on arrive à trouver des mécanismes les plus aisés possibles. L'Europe est déjà une vaste machine extrêmement compliquée, donc c'est encore plus dur qu'au niveau des États ou des collectivités. Mais il faut qu'on arrive à essayer d'imaginer et de construire des mécanismes qui font que leur voix puisse à minima être entendue, si ce n'est écoutée. Donc ça, c'est l'une des premières implications concrètes.
Ça, vous y arrivez ?
Bah on essaye, on y arrive, ça veut dire quoi, je sais pas.
Mais en tout cas, est-ce qu'il y a des groupes de travail dans lesquels ils sont associés, il y a des...
Mais là, depuis le mois de septembre, on va la semaine prochaine, et malheureusement je ne pourrai pas y être, mais vers la troisième rencontre des parlementaires avec des personnes en situation de pauvreté, avec la participation de la Commission européenne, qu'on organise avec les associations partenaires. Mais 3 en 4 mois, je trouve que ça commence à ressembler quand même un peu à quelque chose.
Merci.
François. Ah, pardon.
Vas-y, François.
Oui, non, je voulais dire, je pense qu'on est obligé d'être assez humble quant au fait que nous puissions vraiment entendre la voix des personnes en précarité, parce que c'est toujours un chemin qui se cherche. Et puis, Il y a toujours la question de qui est-ce qu'on a réussi à entendre, qui est-ce qu'on n'a pas encore réussi à entendre, etc. Mais néanmoins, il me semble indéniable qu'il y a des apprentissages de ce côté-là. Ils sont vrais au niveau politique à proprement parler. Ils sont vrais, je crois, aussi au niveau associatif. Hein, au Secours catholique, c'est une expérience d'essayer de traiter des questions à l'écoute des personnes et aussi en faisant dialoguer des expériences associatives différentes, de bénévolat, de salariat, de personnes en précarité. Il y a un conseil d'animation où c'est le cas. Et alors, vraiment, je crois, il faut jamais prétendre que c'est fait, qu'on a réussi ou qu'on a trouvé la formule. Mais en même temps, on voit qu'il s'est vraiment passé quelque chose au fait qu'on change. Et au fait qu'on en arrive à des points où clairement on ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu l'écoute des personnes précarisées. Donc ça, pour moi, c'est quand même un très bon test. Voilà. Est-ce qu'on vit ça? Et je note que ça vaut aussi pour la théologie. On a ici des ce qu'on appelle des séminaires dialogaux où on essaie d'élaborer une parole théologique avec des personnes en précarité, théologiens de métier, personnes en précarité. Je ne sais pas si on y arrive, je ne sais pas si on l'a fait avec tout le monde, je ne sais pas jusqu'où on est allé, mais une chose est sûre, nous disons des choses que nous n'aurions pas dites sans les voix des personnes précarisées. Merci.
Alors peut-être qu'en fait ça rejoint cette dernière réponse. Ma question c'était sur l'insistance dans le texte sur le mot renouveau. Et voilà, je voulais savoir chacun dans vos rôles comment vous l'entendiez et comment bien le comprendre, parce que j'imagine que l'intention du pape est pas de se dire que c'est juste un moyen, que les pauvres sont un moyen pour un renouveau. Mais voilà, c'est quel genre de renouveau est-ce que leur donner leur place provoque. Et pourquoi ce mot-là ?
Tu veux répondre ?
Non, mais je suis en train de réfléchir parce qu'il y a des phrases qui m'ont touchée mais que j'ai pas nécessairement notées, j'ai pas tout noté, c'est quand même assez long. À mon sens, l'appel n'est pas utilitariste à l'égard des plus pauvres. C'est vraiment de dire, voilà, qu'on est digne de Dieu uniquement si on arrive à faire corps, à faire société avec les plus pauvres, à faire en sorte de se mettre dans un cheminement. Parce que c'est vrai, il dit pas on va solutionner tout d'un coup. Il le dit d'ailleurs, il dit c'est un cheminement, c'est un travail permanent et continu. Et ça, c'est aussi assez souligné quand on parle du rapport à la durée. Il ne prétend pas avoir de solution toute faite. Je crois que ça, c'est important parce que ça correspond aux réalités du monde dans lequel on vit. Mais voilà, sans revenir sur le mot renouveau en tant que tel, moi j'entends un appel à retrouver les valeurs profondes qui sont censées nous guider. Et c'est vrai que quand on regarde ce que ça peut vouloir dire pour l'Église, Monsieur Audinet a commencé à en parler, mais pour la politique c'est pareil. On a beaucoup fait des politiques sans tenir compte de la parole des premiers concernés. Et donc on aurait toujours dû le faire. Et il y a eu des tentatives. Il y a d'ailleurs des décisions qui ont été prises et qui sont issues de l'expérience des plus pauvres. Mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte de l'ancrer suffisamment profondément pour que ça nous transforme tout entier? Je pense que c'est peut-être ça qu'il a voulu dire avec le mot renouveau. Et c'est vrai que c'est important aussi ce mot renouveau parce que malheureusement, ce que je disais juste avant en parlant de cette idée que la pauvreté est une violation des droits humains qui s'affaisse, qui s'affaiblit, qui s'estompe, peut-être qu'on a d'autant plus besoin de le dire aujourd'hui, vu la difficulté du monde, vu la dureté du monde, vu le chaos du monde, qu'on avait peut-être besoin de le dire il y a 10 ou 20 ans, où finalement on n'avait pas nécessairement tout mis en œuvre, mais où c'était plus installé. Donc c'est peut-être dans ce sens-là que je l'interpréterais moi.
Moi, je l'interpréterais cette question du renouveau à la fois comme théologien, puis à la fois comme aumônier du Secours catholique, avec deux accents. Comme théologien, je dirais que le pape a bien conscience que l'Église catholique est assez divisée et que c'est un enjeu majeur de chercher de l'unité, et que cette unité, on la trouve pas juste en se regardant et en disant à l'autre qu'il est gentil, cette unité, on la trouve en avançant ensemble, vraiment. Et ici, Léon XIV donne un critère, parce que tout le monde cherche un renouveau. Et tout le monde peut être convaincu d'incarner le renouveau mieux que celui qui a des options contraires. Et donc il donne un critère, non pas de renouveau, comme si c'était magique, mais un critère de vérification que le renouveau est authentique, c'est l'engagement concret, réel et qui définit l'attitude de l'Église, ça c'est un critère de renouveau authentique. Il dit, il n'y a pas de renouveau authentique dans l'histoire de l'Église qui ne se soit caractérisé par une attention prioritaire aux plus pauvres. Et donc, des formules magiques de renouveau, des recettes de renouveau, on en abonde dans l'histoire catholique et dans l'actualité catholique. La question d'authentification, c'est est-ce qu'il y a l'engagement avec les plus pauvres ? Ça me semble très précieux que le pape, dans le ministère qu'est le sien, dise ça. Après, comme aumônier du Secours catholique, je suis aussi sensible à son inquiétude quant à l'essoufflement de la démocratie. Et manifestement, si renouveau démocratique il y a pour lui, il est à attendre de l'écoute des voix les plus précaires. Je le cite, alors là c'est Léon XIV qui parle en citant François, « Si les hommes politiques, les femmes politiques aussi j'imagine, et les professionnels ne les écoutent pas, la démocratie ne les écoute pas, c'est les pauvres, hein, la démocratie s'atrophie, devient un nominalisme, une formalité, perd de sa représentativité, se désincarne en laissant le peuple en dehors dans sa lutte quotidienne pour la dignité et dans la construction de son destin. » Donc, quand on est dans une grande association de lutte contre la précarité, on voit à quel point l'essoufflement démocratique va de pair avec une certaine incapacité à entendre les plus pauvres et va de pair avec le fait de les désigner comme coupables de leur situation, voire comme coupables de tous les maux de la société dans laquelle ils se trouvent. Et donc, il y a un enjeu, me semble-t-il, de renouveau d'une conversation démocratique. Et ce renouveau, le pape en donne une clé, c'est pas la seule, hein, mais le pape en donne une clé, c'est notre capacité à ce que dans cette conversation, on entende réellement les voix des plus précaires.
Marie, comment vous entendez ça? La phrase de François?
Ah bah, je pense que c'était à cette phrase. C'était cette phrase-là que je cherchais et que j'avais pas notée. Donc voilà, je suis ravie qu'il l'ait lu. Non, mais je suis d'accord.
Oui, pour rester dans le concret, il y a une expression que François aimait bien, et je pense pas qu'elle soit dans l'encyclique, mais elle est dans le discours au mouvement populaire de Léon XIV. Les poètes sociaux. Quel contenu donner à cette expression? Autrement dit, comment concrètement faire en sorte que les plus pauvres soient pas simplement considérés comme dignes d'une manière un peu formelle qui peut rester un peu générale, mais très concrètement contribuer à la vie de la société dans toutes ses dimensions. Alors, on a donné quelques exemples, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce point qui me paraît assez décisif.
Alors, je réponds à la question sur les poètes sociaux en sachant que la personne la plus compétente pour répondre, ce serait une de nos collègues des facultés Loyola, Dominique Coatanea, qui a plus que travaillé cette question et qui est dans cette salle. Donc, j'en dis juste un mot.
On va lui donner la parole.
Ben, j'espère bien. Vous êtes même, je laisse Dominique commencer, non? Alors, l'expression de poètes sociaux employée par François, elle désigne le fait que, avec les plus pauvres, avec les plus précaires, on est capable d'inventer, on est capable de créer. C'est-à-dire, on n'est pas seulement amené à résoudre ou à réparer, ce qui déjà est utile, mais on est appelé à créer des nouvelles manières de vivre la fraternité, des nouvelles manières de vivre ensemble, des nouveaux rapports économiques, etc. Ça me semble un point très précieux. C'est-à-dire, nous n'avons pas juste un monde à réparer, nous avons des chemins de création possibles avec les personnes les plus précaires, et on pourrait ajouter aussi à l'écoute du cri de la terre, comme le disait François, donc en prenant en compte tous les aspects écologiques qui vont avec la violence faite aux plus pauvres, etc. Et puis dans cette dimension de poètes sociaux, il y a une dimension aussi de qualité. C'est-à-dire, il y a une qualité de relation, il y a une qualité de vie sociale, il y a une qualité de respect de la dignité pour tous, qui devient bien plus sensible quand il y a ce droit fait aux plus pauvres. Et où finalement, ce qui se vit avec les plus pauvres engage ce qu'il en est de tous les êtres humains. Bon, je dirais déjà ça.
Bah, je peux rebondir ou alors on prend d'autres allez-y, questions allez-y. Et je rebondis allez-y. Après. Comme vous, j'espère que personne ne se sent lésé. Non, mais je pense qu'il faut aussi, de façon très concrète, voir déjà dans notre pays ce qui a pu être créé grâce à cette coopération entre égaux, le pape répète beaucoup entre égaux dans son texte, à cette coopération entre égaux, je crois que la création de la CMU est issue de cette co-création.
Couverture maladie universelle.
Exactement, qui permet à chacune, à chacun d'avoir ses soins de première nécessité couverts, que le revenu minimum est fruit de cette co-création et que pour en revenir au travail digne, les territoires zéro chômeur qui permettent à chacun de travailler dans les compétences qui sont les siennes et au rythme qui sont les siens, prouvent que ça apporte un plus à l'ensemble de la société. Alors ça a peut-être un coût, mais ça apporte aussi beaucoup de choses et pas que à la personne qui est concernée. Donc on a déjà ces exemples-là et que je pense qu'il faut étirer. Quand on parle d'options préférentielles pour les pauvres, je crois qu'il y a cette nécessité d'agir avec, mais aussi de réfléchir en permanence aux impacts de ce que l'on fait sur les plus pauvres. Ça vaut pour l'Église, ce n'est pas à moi d'en parler, mais ça vaut aussi évidemment pour les politiques. Et il y a une demande qui est portée depuis très longtemps par les associations en France, qu'on essaie de porter aussi au niveau européen, qui est de se dire comment les décisions qu'on prend impactent ceux dont les conditions de vie sont déjà les plus difficiles. Les impacts en termes monétaires, ça, il y a des études d'impact économique, social, distributionnel sur les inégalités qui peuvent être mises en place, qui sont encore au début, aux prémices. Et puis, il faut prendre en compte les différents aspects de la pauvreté. Ça a été montré par des chercheurs. Il y a des dimensions cachées à la pauvreté dont il faut réussir à tenir compte également. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, dans le cadre des politiques qu'on adopte, eh bien, les politiques qu'on adopte ne viennent pas dégrader encore les conditions de vie qui sont déjà extrêmement difficiles. Moi, je le porte en demandant un droit de veto social. Alors, c'est un peu fort, c'est un peu révolutionnaire, mais je pense que ça nous ferait du bien d'avoir ce droit de veto social qui impose et les études nécessaires et la participation. Et je finirai juste sur ce point-là en disant que, alors, moi, j'ai été très interpellée par la Laudato aussi parce que je suis écolo. Et donc à la fois je suis très préoccupée par la question de la pauvreté, je suis très préoccupée par la question de la planète. Il y est très peu référence, fait référence dans ce texte-là, mais les fois où il y est fait référence, il y est fait de la façon qui moi me convient le mieux. Voilà, donc je le souligne aussi, mais qui était déjà la façon dont le père Joseph Rezinski en parlait dans Les pauvres sont l'Église, et en disant au fond... ce qui compte, c'est de savoir est-ce qu'on accepte que certains vivent dans des environnements qui sont agréables, qui sont bons, qui sont sains, et que d'autres vivent dans des environnements dégradés, pleins de déchets, mais aussi dangereux pour sa santé. Et c'est posé sous cet angle-là, et je pense aussi que ça, c'est un angle qui est absolument fondamental, et qui requiert aussi, pour nous, les écologistes que nous sommes, d'impérativement, en permanence, se poser cette question-là avant de décider des options qu'on va choisir.
Le droit de veto social, c'est quoi?
Alors, c'est une proposition que je formule et qui viserait et qui s'appuie sur le travail d'association. Hein. Et les associations disent on a besoin de savoir quel est l'impact justement distributionnel sur les inégalités et notamment sur les plus pauvres. Alors, les 10 et 20% les plus pauvres, pour aller assez finement dans le détail. Et moi, j'y ajoute une question de participation, c'est-à-dire que les institutions, si elles constatent qu'une mesure est difficile, justement pour les personnes qui sont déjà en situation de précarité, on s'abstienne de l'adopter, mais qu'en plus de ça, à travers des mécanismes à mettre en place, les personnes en situation de précarité, si elles sentent qu'une mesure est absolument impropre, inacceptable et aggrave encore leurs conditions de vie, elles puissent aussi exercer ce droit de veto social. Et que dans ce cas-là, on prend la politique en question et on la change.
Concrètement, comment ils s'expriment sur le fait, comment ils expriment leur droit de veto?
Alors là, on rentre dans le détail, dans la marmite. Moi, ce que je propose,
c'est intéressant parce que c'est
Ce que je propose, c'est que le défenseur des droits, alors la défenseur des droits en France aujourd'hui, mais la médiatrice européenne au niveau européen, qu'en tout cas on renforce leurs services pour qu'il puisse y avoir cette participation permanente. En France, on a le Conseil national de lutte contre l'exclusion qui fait intervenir en permanence des personnes en situation de précarité. Peut-être que c'est à eux, en lien avec le défenseur des droits, de pouvoir exercer ce droit de veto social. Au niveau européen, c'est des dispositifs encore à mettre en place. Mais en tout cas, on peut les imaginer. On sait le faire sur d'autres sujets. Je vous donne un exemple.
C'est-à-dire que les textes seraient passés à l'aune de...
Bien sûr. Bien sûr, au tamis de l'impact sur la pauvreté. Ouais. Mais vous savez, au niveau européen, on a adopté... C'est pour ça que je dis que les écolos, on a aussi des choses à apprendre. Au niveau européen, on a adopté le principe « ne pas nuire à l'environnement ». C'est un principe, il y a une définition, etc. Et donc, quand un texte passe, il est passé à cet ami-là. Est-ce que ça nuit à l'environnement ou pas? Bon, alors ils prennent beaucoup de décisions qui nuisent à l'environnement malgré tout. Mais ça, c'est autre chose. Mais on n'a pas ce ne pas nuire à la justice sociale, ne pas nuire aux conditions de vie des gens, ne pas nuire à la dignité, ça n'existe pas. C'est fou quand on y pense. C'est complètement fou. Alors que cette question de la dignité, elle est vieille comme l'être humain.
François, vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Disons, je suis très sensible à cette idée que on ne peut pas chercher l'intérêt général. On pourrait dire aussi on ne peut pas chercher le bien commun, un terme que Léon XIV emploie évidemment, au détriment de quelques-uns, les plus fragiles, sur qui ça pèserait. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire bon, tant pis, désolé. Voilà, on ne peut pas se résoudre à ça, d'une part. Et d'autre part, je suis sensible au versant plus créatif que vous nommez, c'est-à-dire que là où il y a quelque chose qui produit un effet pervers sur les plus précaires, éventuellement non voulu, on peut aussi l'imaginer, là où il y a quelque chose qui produit un effet pervers sur les plus précaires, il est possible que avec eux, et aussi avec des acteurs associatifs qui sont engagés à leur côté, etc., on soit capable, pas seulement d'éviter que ça se produise à l'avenir, mais aussi d'inventer mieux que ce qu'on voulait faire au départ. Voilà, ça j'y crois profondément. En tout cas, cette idée que on ne peut pas sacrifier les plus précaires sur l'autel du plus grand nombre, ou on ne peut pas sacrifier les plus précaires sur l'autel des intérêts immédiats, encore moins, ça je crois que ça vaut vraiment la peine d'être mis en valeur, oui.
Mais le défenseur des droits en France, enfin la défenseuse en l'occurrence, elle agit sur ces questions de pauvreté, elle a un pouvoir, ou elle s'en saisit, elle... C'est quelque chose qui existe déjà.
Alors je crois qu'elle y est très sensible, mais c'est vrai que les outils
parce
sont pas...
Parce que comme personne, vous voulez dire.
Oui.
Oui.
Comme personne, Claire Hédon, on parle de Claire Hédon. Non, elle y est très sensible en tant que
oui,
personne.
Était, comme elle était patronne de TD.
Présidente.
Présidente.
mais c'est vrai que elle a une surface très vaste de droits à défendre. Des équipes qui sont à la fois étoffées, à la fois restreintes. Et je veux dire, quand on appuie sur un thème, on braque aussi, hein, on se crée des ennemis. Et donc, par exemple, je sais qu'elle est allée visiter des aires d'accueil des gens du voyage, qui sont parfois celles avec lesquelles je travaille, et qu'elle y a justement défendu la dignité et l'accès aux droits, etc. Donc elle peut agir, mais après, si on veut aller vers la mise en place du droit de veto social, il faut l'aider, il faut l'appuyer, il faut la renforcer, il faut créer les mécanismes pour qu'elle puisse le faire, parce que la question de la sensibilité individuelle n'est pas suffisante, et je crois que c'est aussi ce que dit l'exhortation et ce que dit le pape et ce qui a été repris par Monsieur Audinet. C'est au-delà de la question de la sensibilité. On a besoin, c'est un impératif, c'est le point de départ, d'avoir cette volonté individuelle, mais elle a besoin de s'incarner dans quelque chose de plus grand.
Merci. D'autres questions?
Bonsoir. Merci de votre engagement. Merci de votre regard, de vos mots de ce soir. Vous avez parlé du travail tout à l'heure, et je voudrais apporter un témoignage. J'étais tout à l'heure avec un professeur qui agit dans un CFA, donc un centre de formation par l'apprentissage, et qui me disait sa préoccupation, parce que depuis quelques mois, eh bien, il sent bien que certains jeunes sont très fébriles et qu'ils regardent leur téléphone parce qu'ils scrutent la délivrance de leurs papiers, les oukases d'OQTF qui tombent ou pas. Et derrière ça, il y a des chefs d'entreprise qui naviguent dans le gris, c'est-à-dire que soit ils respectent la loi à la lettre, et effectivement, ils font ce que la loi lui demande, donc ils virent le jeune, et voilà. Soit ils tirent sur la corde jusqu'à ce que l'injonction vienne de manière très péremptoire, et voilà. De fait, avant ce soir, tout à l'heure, j'étais plutôt dans l'instruction qui était de dire, tu respectes la loi, quoi, donc... Le jeune là, ben non. Ce jeune là, non. Et voilà. Bon, merci de votre de votre regard.
Vous voulez réagir? c'est intéressant le rapport à la loi.
Alors, au Secours catholique, nous constatons combien des personnes qui sont en attente de titres de séjour, de réponses, etc., sont dans des situations kafkaïennes. Donc, à mon avis, le problème n'est pas faut-il respecter la loi ou pas respecter la loi. Le problème est que les personnes sont dans des situations où, en fait, l'empilement de démarches à faire, mais aussi l'aspect contradictoire des injonctions qui pèsent sur eux, sans compter qu'ils ne peuvent pas avoir accès à des revenus légaux alors que parfois ils veulent travailler, etc. Vraiment, cet aspect kafkaïen est insupportable et il est gravement nuisible pour les personnes, il est gravement nuisible quant à la place qu'elles peuvent prendre, il est gravement nuisible quant à leur santé psychique, et en fait, il est assez nuisible à tout un tas d'acteurs qui ne demandent pas mieux que de cheminer avec eux. Du coup, cette situation-là, je crois vraiment la question qui se pose n'est pas de respecter la loi ou pas, elle est que nous avons aujourd'hui un système suffisamment compliqué pour qu'il soit employé de façon à rendre quasi impossible la vie des personnes. Voilà. Ça, c'est pour moi, comme aumônier Secours catholique, mais aussi comme prêtre d'une paroisse il y a quelques années, quand j'étais en paroisse où j'ai eu l'occasion d'accompagner les personnes, c'est vraiment un sujet de scandale. C'est vraiment un sujet de scandale.
Oui, ce qu'il y a, c'est que souvent la simplification... Allez-y, allez-y. Attendez d'avoir un micro.
Oui, d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Au quotidien, il y a toujours un moment où on est en marge de l'injonction, du courrier qu'on a reçu ou autre chose. Donc on tire sur la corde, on attend un mois de plus, on en arrive à payer des gens qui recomposent les dossiers auprès de la préfecture, qui le remettent sur le haut de la pile du service en charge du fameux dossier. Voilà, on en arrive à des trucs, effectivement,
Oui.
Ouais, mais j'allais insister sur un autre aspect de votre intervention, en fait, mais on peut... Je vais voir, je réponds à ce que je voulais répondre au départ, parce que dans ce que vous soulignez, vous dites, voilà, c'est en CFA, et donc, c'est des gens, des jeunes, qui ont des difficultés d'avoir accès aux papiers. Mais ça, c'est déjà terrible. Parce que, voilà, quand on dit « on est tous égaux en dignité », on est N-A-I-T, naître, on est tous égaux en dignité, alors normalement, on doit avoir les mêmes chances. Or, ce n'est absolument pas le cas. Ni quand on vient d'un pays tiers, ni même pour une grande partie des jeunes qui naissent sur le territoire français. En fait, il y a des voies générales, pour tout le monde, ou plutôt pour les meilleurs, et puis il y a les voies de garage, où on envoie non pas ceux qui ne sont pas meilleurs, mais ceux à qui on n'a pas laissé la chance de faire autre chose. Et ça, des témoignages comme ça, on en a pléthore. De jeunes qui avaient des très bonnes notes à l'école, mais à qui on a dit, écoute, en quatrième, cinquième ou quatrième, parce que c'est à cet âge-là que ça se joue, on a dit, écoute, de toute façon, pour toi, ce sera par ici. Et ça, c'est condamner les gens, et on revient à ce que disait le pape, à sa phrase que j'aime beaucoup sur « mais dans quel monde on considère que seuls ceux qui ont réussi leur vie ont du mérite ?» Je pense que c'est vraiment, on a des gens qui peuvent être tout à fait brillants, qui pourraient faire des tas de choses, et qu'on condamne à finalement des voies qui sont plus courtes, plus resserrées, parce que voilà, on leur dit « bah c'est par ici », et ce sont des voies qui offrent. Moins de perspectives, moins de liberté, moins de choix et une espérance de vie plus courte, parce que je pense qu'il faut le rappeler, même si ce n'est pas mentionné par le pape, mais les plus pauvres aujourd'hui dans notre pays ont près de 15 ans d'espérance de vie de moins que les plus riches, et je pense que ça, ce temps volé-là, à la famille, à la joie, à la douceur dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même une injustice absolument criante. Maintenant, pour revenir sur la question des papiers, je pense qu'on a deux types de situations. Il y a les politiques qui sont adoptées en théorie et la façon dont elles sont mises en œuvre. Les politiques qui sont adoptées, bon, on pourrait en reparler, ça pourrait faire l'objet d'une grande discussion de plusieurs heures. Et puis il y a la façon dont elles sont mises en œuvre. Et où effectivement, ce que vous dites quand vous dites on en vient à payer des gens pour reconstituer des dossiers pour les mettre en haut de la pile. Moi, je suis régulièrement sollicitée en tant qu'élue pour écrire des courriers au préfet. Mais ce courrier, peut-être qu'il file un coup de main un peu. Mais surtout, ce qu'il a pour objet de faire, c'est de justement faire remonter un dossier. Mais quand je fais ça, je suis ravie d'aider la personne à qui je fais ce courrier. Mais je sais aussi que du coup, il y a d'autres courriers qui redescendent. Et donc, voilà, quand on parle voilà, d'aventure kafkaïenne, c'est vraiment, voilà, difficile, quoi, de vivre ça et de savoir, hop, bah, cette personne-là, elle mérite, mais comme je le dis depuis tout à l'heure, les autres méritent sûrement aussi. Et donc, comment on fait pour s'en sortir? Je pense, dans la question des préfectures en tant que telles, et pour régler un certain nombre de ces dispositifs, il y a quelque chose qui devrait tous nous mettre d'accord, au fond, c'est de doter les préfectures des moyens humains suffisants pour traiter les dossiers. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui rend aussi la vie de ceux qui traitent les dossiers absolument insupportable, et ce qui les met par ailleurs en contact avec des tensions quand ils sortent de leur travail, qui devraient pas non plus être là.
Si. Monsieur ?
Si, je voulais vous demander...
Allez, mettez le micro près de...
Je voulais vous demander, est-ce que l'exhortation développe la question de comment s'y prendre pour trouver les ressources spirituelles nécessaires pour aller toujours plus auprès des pauvres?
François, c'est à vous.
Alors, est-ce qu'elle développe la question des ressources spirituelles nécessaires? Je dirais que la logique de l'exhortation est plutôt le contraire. Le pape dit quand même, comme François l'avait dit, « Mais enfin, quand on voit l'écriture et la tradition et la place qui tiennent les pauvres, je ne comprends même pas que certains n'en voient pas la nécessité. » En fait, le mouvement est plutôt contraire, disant « bah après tout, tout est déjà là, d'une certaine manière. » Moi, je dirais quand même il y a deux mouvements spirituels qui parcourent l'exhortation et qui, je pense, peuvent nous nourrir. Il y en a un premier qui est l'identification des pauvres au Christ, qui est un classique, si j'ose dire, de la tradition chrétienne, notamment à partir du chapitre 25 de Saint Matthieu, où Jésus dit, le juge de la fin des temps, dit « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais en prison, vous m'avez visité, etc. J'étais étranger, vous m'avez accueilli, et d'autres. » Et les gens sont très surpris en disant « Ah bon, quand ?» Et il répond « À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc il y a cette longue tradition de dire qu'il y a une forme de rencontre du Christ à travers les plus pauvres. Et c'est d'ailleurs en ce sens que Léon XIV interprète la phrase de Jésus lors de l'onction de Jésus par la femme dont nous parlions tout à l'heure. « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Moi, vous ne m'aurez pas toujours, mais des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. » En somme, le pape rappelle que Jésus passe le témoin aux pauvres. Voilà, c'est à travers les pauvres que nous rencontrerons le Christ dans l'histoire. Bon, ça, c'est une veine. Puis il y a une autre veine qui est de comprendre qu'il y a un mouvement vers les pauvres qui est un mouvement qui part de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas que nous avons à nous faire proches des pauvres, c'est que Dieu lui-même, parce que il est miséricorde, vient en premier auprès de ceux qui ont le plus besoin de salut, auprès de ceux qui ont le plus besoin d'être sauvés. Et parce que le salut n'est pas simplement une question de pardon, mais aussi une question de libération, de relèvement, etc. C'est Dieu qui en premier choisit les pauvres, ce qui explique le style de vie de Jésus, ce qui est cohérent avec la mort du Christ sur la croix, etc., ce que le pape rappelle. Et donc, en tout cas, il y a cette conscience de dire « Dieu nous a précédés ». Et je crois que les deux mouvements sont précieux. On rencontre le Christ parmi les pauvres, c'est une forme de tradition. Et le deuxième, auquel à titre tout à fait personnel, je suis plus sensible, « Dieu nous a précédés » et donc il nous envoie, il nous emmène. Voilà, il y a quelque chose d'une force de Dieu qui nous conduit vers les pauvres, avec les pauvres, à partir des pauvres.
Là, je vais en rajouter un troisième. Voilà, comme ça, peut-être qu'on aura fait le tour, mais peut-être pas. Vous êtes aussi amené à répondre à cette question-là. Mais je crois y avoir lu aussi, on lit aussi ce qu'on a envie d'y trouver, mais je crois aussi, malgré tout, que le pape parle de ce contact, cette rencontre entre égaux qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises, et finalement nous dit que c'est justement dans cette rencontre, dans ce contact, qu'on va trouver cette ressource pour pouvoir aller de l'avant. Et voilà, moi je dis beaucoup, vous savez, c'est la mode en ce moment, comme on est dans une société qui est quand même très tournée vers le soi, vers le jeu, pas toujours d'une manière très spirituelle, et voilà, c'est plus, il faut se raconter soi. Donc on me pose régulièrement la question, oh là là, mais comment tu fais, c'est tellement dur, tu te bats pour sauver la planète, où est-ce que tu trouves les ressources? Et alors il y en a qui disent c'est avec mon chat, il y en a qui disent que c'est en mangeant, il y en a qui, bon, voilà. Moi je dis toujours, mais en fait on n'a pas le choix. Et la ressource, la force, l'espérance, on ne peut la trouver que en sachant que d'autres vivent des vies tellement plus difficiles que les nôtres. Un, qu'on n'a pas tellement à se plaindre, bon, c'est pas ce que dit le pape du tout. mais deux, que justement, dans leur force, dans leur combat, dans la dignité qu'ils préservent envers et contre tout, ici, on peut trouver cette force-là. Je crois que ça rejoint le premier point, hein, de dire, voilà, c'est finalement rencontrer le Christ. Et donc, c'est justement en rencontrant cette pauvreté, et donc le Christ, qu'on peut tirer cette ressource pour continuer à avancer.
Autre question, monsieur.
Oui, merci pour la richesse de vos échanges. Je suis pas flatteur, je sais pas faire. Donc effectivement, c'est très apaisant d'entendre des gens s'exprimer sur des sujets compliqués sur lesquels ils ont beaucoup travaillé. Apaisant d'entendre des gens parler d'enjeux qu'ils connaissent bien. Hein, voilà. Non, simplement, effectivement, vous l'aviez dit. Les uns et les autres, notamment même Toussaint, il faut objectiver, enfin d'autres disent il faut objectiver les débats avant de prendre des décisions, avant d'aborder le débat public. Vous avez abordé rapidement, mais les études des chercheurs en sciences sociales qui sont très précieuses, pas assez lues, pas assez prises en compte, mais qui existent. Vous avez évoqué la défenseur des droits qui fait des avis, des rapports qui sont très argumentés. On nous explique jamais pourquoi on tient pas compte de ces avis où on a le droit d'être contre, mais au moins d'apporter des arguments. Et puis aussi, effectivement, études scientifiques, études d'institutions, rapports de diverses natures, mais aussi effectivement la contribution de personnes qu'on qualifie de pauvres, hein, et dont l'expertise nous manque trop souvent. Vous évoquiez aussi le CNLE, le Conseil national de lutte contre les exclusions, des politiques de lutte contre les exclusions. Effectivement, enfin, vous le savez, il y a notamment un collège composé de personnes ayant l'expertise de la pauvreté subie et aussi de la solidarité concrète vécue au quotidien. Hein, et juste un tout petit exemple pour illustrer cette contribution indispensable. C'est pas pour faire plaisir, hein, c'est pas un supplément d'âme, c'est vraiment pour mieux comprendre les enjeux de notre société. Au cours de ce CNLE, il y a quelques années, il y a prescription, mais ça reste très important, il y a une étude très fouillée et très intéressante de l'INSEE et de la Caisse nationale d'allocation familiale présenter l'impact sur les inégalités des politiques sociales, des politiques de protection sociale, des prestations sociales, et aussi l'impact des différents impôts. Hein. Alors on pense tout de suite à l'impôt sur le revenu, aux cotisations sociales, qu'on appelle trop souvent charges sociales. Voilà, c'était très intéressant. Et puis, dans l'Assemblée, enfin autour de la table, une personne s'exprime et dit « Mais vous n'avez pas étudié l'impact de la TVA sur nos budgets ?» Hein ? Et effectivement, ces chercheurs étaient d'une très grande qualité, hein, c'est pas pour dire. Et d'ailleurs, nous-mêmes, membres d'association, on n'a pas réagi tout de suite. Donc c'est pas les chercheurs, c'est nous tous. Et effectivement, et après... On revient à ce qu'on avait travaillé un peu sur le fait que, effectivement, quand on dit qu'il y a la moitié des habitants de la France qui payent pas d'impôts, la TVA, hein, on le sait ici, mais dans le débat public on ne l'entend pas, hein, un poids proportionnellement très important sur les personnes qui subissent les situations les plus précaires. Donc effectivement, il y a un vieux slogan, hein, c'était le millénaire dernier, hein, mais qui reste d'actualité du discours catholique, qui disait grosso modo « Le monde a besoin de tout le monde ». Donc effectivement, c'est pas un supplément d'âme, c'est indispensable pour mieux comprendre là où on en est collectivement.
Oui, bonsoir. Du coup, oui, je voulais juste réagir à ce que vous avez évoqué, la théologie de la libération, en reprécisant que l'exhortation la remettait, en tout cas réaffirmait ce fondamental que Dieu n'est pas neutre, Dieu est du côté des pauvres. Et immanquablement, ça amène à des mouvements de contestation contre un ordre, une structure de péché, en tout cas un ordre injuste. Et en même temps, on vit aussi dans un monde où il y a un enjeu de paix, en tout cas à la fois en France, à la fois dans le monde, où il y a un enjeu d'arriver à dialoguer, à discuter, et comment on peut concilier ces deux enjeux à la fois de s'engager fortement du côté des plus pauvres et à la fois de pas participer à des clivages qui sont déjà très forts.
Merci beaucoup. C'est une question qui s'est posée à beaucoup de théologiens de la libération eux-mêmes, hein, assez tôt. C'est-à-dire que il y a cette idée que on ne viendra pas à bout des structures de péché, à condition qu'on veuille bien admettre qu'elles sont réellement contraires à ce que Dieu nous montre de son amour pour nous et même de qui est Dieu en personne. Si on admet ça, alors il faut qu'il y ait une forme de libération commune. Une fois qu'on a dit ça, eh ben oui, il y a une dimension de combat. C'est-à-dire, il y a des structures de péché avec une forme d'ordre de pouvoir dont le pape, avec beaucoup de lucidité, rappelle les dimensions politiques, économiques, sociales, culturelles et religieuses. Et il y a une dimension, on peut dire, agonistique, enfin d'engagement, qui passe par une forme de lutte, indéniablement. Il me semble que ça permet de réinterpréter ce qu'il en est de l'amour des ennemis, que le pape rappelle ici. L'amour des ennemis n'est pas renoncer à lutter pour la justice et avec les plus précaires qui déjà eux se battent au quotidien. L'amour des ennemis veut dire qu'on ne veut pas anéantir ceux qui tirent bénéfice de ces structures de péché, mais qu'on leur souhaite de pouvoir se trouver eux aussi avec les pauvres. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne veut pas anéantir, on espère une forme de conversion. On espère que, en nous tenant avec les pauvres, nous aiderons d'autres à se tenir eux-mêmes avec les pauvres. Donc je crois qu'il y a quelque chose de la lucidité à tenir. Nous sommes les disciples du Christ crucifié, comme dit l'apôtre Paul, et donc à tenir d'une réalité dans laquelle il y a une grande violence, et donc où il y a une forme de combat, en effet, mais qui est un combat non pas contre certains, mais un combat qui espère rallier tous, mais qui, en attendant, se présente bien sous les modalités d'un combat.
Madame.
Mon hypocrisie, notre hypocrisie est abyssale. SDF, un petit mot. Pourquoi c'est un luxe d'avoir un domicile pas fixe? Oui ou non? Aujourd'hui le jour, j'ai une adresse, je peux trouver un petit boulot, etc., etc. Bon, ça, une chose, c'est horrible. Et les apprentis, les alternances, quelle horreur! En ville, grande ville, petite ville, c'est une horreur. Si nous qui proposons un plateau pourri à ces jeunes, et qu'en plus nous ignorons absolument ce qu'ils vivent, où sommes-nous? Voilà, excusez-moi, je suis... Et quand est-ce que nous allons nous remercier, nous, chacun et ensemble, plutôt que de se contenter de vous remercier? Vous avez dit Emmanueli, en plein dedans. Et quel essaim. Il n'y a pas d'aide. L'aide est toujours associée à la désaide. C'est entre-aide ou rien. Écologie, madame, excusez-moi. C'est pas supportable. L'écologie, c'est des mini-confettis dans un grand drap effiloché et troué. Écosystème ou rien.
Vous voulez réagir? Une autre question?
Merci beaucoup de rappeler le caractère systémique en fait des questions et du fait que en effet c'est ensemble, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec le avec. Il s'agit de penser avec et non pas pour. et dans la rencontre, oui. Mais je crois que, du coup, ma question, elle portait sur ce que le pape François a beaucoup déployé autour de l'écoute du cri des pauvres et du cri de la terre. C'est-à-dire cette articulation dans le « et », non pas opposer ce qui serait fin de mois et fin du monde, mais vraiment comment rendre compte de ce que les plus pauvres vivent du côté de l'ancrage dans une terre, un territoire, une manière d'être avec les éléments du monde, et du coup une certaine expertise de la sobriété, nécessaire ou non voulue, mais d'une certaine manière de cette expertise de faire avec moins, plus. Plus de quoi d'ailleurs ? Mais du coup, comment dans votre engagement écologique, cette réception de l'articulation entre cri de la terre et cri des pauvres crée une dynamique politique en fait ? Comment ça peut être traduit en termes politiques ?
Dans le micro.
Oui, et d'une certaine manière, François, comment ce texte de Léon est dans la veine, non, il ne déploie pas beaucoup cette articulation, cri de la terre et cri des pauvres, mais ce qu'il en dit, en quoi ça vient élargir ou donner, comme tu le disais, une réinterprétation de ce que François a déjà posé comme base du travail.
Oui.
Oui, d'abord, un grand merci à tous les trois. Voilà, je pense qu'on répond pas toujours parce que c'est pas nécessairement des questions, parfois c'est des vraies choses, enfin voilà, donc c'est du partage, et je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Je pense qu'on a des témoignages du fait qu'effectivement il faut partir des réalités, des vécus et des souhaits des personnes concernées, que ce soit sur la TVA, qui sont des choses qu'on pense pourtant évidente, mais qu'en fait, voilà, certains ne voient même pas, ou sur cette question de sans domicile fixe, ça m'a interpellée. C'était un bon, voilà, une belle phrase. Les mots sont toujours piégeux, mais au fond, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Hein, je mène plusieurs combats aux côtés des gens du voyage, par exemple, qui ont pour volonté eux. En tout cas, qui avait, parce que maintenant ça commence à se tarir un peu, mais cette volonté de se mouvoir et qu'on a sédentarisé de façon obligatoire, qu'on a contraint à se sédentariser et qui peu à peu perdent à la fois leur langue, leur tradition, et en plus de ça, on les oblige à se sédentariser sans leur donner les terrains nécessaires pour le faire, et donc on les criminalise. Enfin bref, donc on peut cumuler la liste, et donc ça démontre seulement l'importance de partir de voilà du réel, du vécu. Il y a plein de manières et je peux revenir le mois prochain et on refait 2 heures sur l'écologie et voilà, je parlais tout à l'heure de la Laudato aussi et voilà du fait que c'était peu présent mais quand même présent à l'intérieur de ce livre. Moi je crois en fait ce qui est, il y a plusieurs manières d'aborder l'écologie. Il y a celles et ceux qui se passionnent et il faut les remercier. Parce que sans elles et sans eux, je pense que voilà, la planète serait dans un état pire encore, mais qui se passionnent pour la faune, pour la flore, qui se sont battus, par exemple, pour qu'il y ait des crapauducs sur les autoroutes, je veux dire, à un moment, c'était pas une évidence, et qui ont passé beaucoup de temps, passionnés par la nature, à se battre pour la préservation du vivant en soi, quasiment de façon étrangère, comme une extranéité à l'être humain. Donc il y a cette tendance-là, cette philosophie-là. Il y a ceux qui peut-être plus ingénieurs, plus scientifiques, regardent les courbes, s'en alertent, ou une approche plus mécanique des choses. Et ça, c'est peut-être des anciennes générations, mais aussi des nouvelles. Hein. Greta Thunberg, quand elle a commencé, elle brandissait le rapport du GIEC. Et donc ça s'inscrit un petit peu dans cette dynamique-là, et qui est finalement voilà, une écologie, une forme de connaissance de l'alerte, et qui part pas nécessairement de cette rencontre, du contact. Je crois que la façon dont on allie le cri des pauvres et le cri de la terre, c'est à la fois ce que je disais tout à l'heure, la façon dont c'était formulé, de dire mais certains ont le droit de vivre dignement dans des environnements qui sont bons pour eux, et je parlais d'espérances de vie qui ont souvent des espérances de vie beaucoup plus longues, et qui aussi dans leurs habitudes de consommation peuvent acheter bio, que ce soit à manger ou des cosmétiques, qui peuvent voilà mettre leurs enfants dans des endroits où voilà ils peuvent aussi prendre soin de leur sport, de leur corps, faire du sport, etc. Et des gens qui sont malheureusement contraints d'acheter. J'ai un témoignage d'une femme de Lille qui me revient, qui dit « Mais moi, je veux bien faire ce que vous me dites, là, être écolo. Mais quand je vais dans un supermarché, moi, ce que je fais, c'est que je regarde pas quelle est la lessive bio. En fait, je vais en bas, je prends le pot le plus gros, le moins cher, et en fait, je suis contrainte de faire ça. Et moi, je veux bien qu'on ait des sacs réutilisables, etc. N'empêche que moi, ce qu'on me donne, c'est que des sacs plastiques. Et donc, je vais faire avec ça. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une nécessité... voilà, c'est encore une fois une question de dignité, mais de partir de cette question, de cet enjeu de la dignité humaine. Et moi, je suis assez convaincue que si on avait fait attention à la dignité humaine, alors, on aurait moins mis de CO2 dans l'atmosphère, parce qu'on aurait moins fait de charbon, parce qu'on se serait soucié de la santé des ouvriers qui descendaient dans la mine. Et mon grand-père, je vous ai parlé de ma grand-mère tout à l'heure, je vais faire toute la famille, mais mon grand-père était mineur, il est mort très jeune, je l'ai pas connu. Et donc, je crois que ça va ensemble, de la même manière que on parle beaucoup de PFAS aujourd'hui, les polluants éternels. Les ouvriers, ils disent, mais non seulement notre usine, elle ferme, mais en plus de ça, on a été contaminés toute notre vie, on le savait pas. Ça fait écho aux Antilles, en Martinique, en Guadeloupe. On leur a jeté du chlordécone sur la tête, on leur jette encore du glyphosate sur la tête aujourd'hui, et sans se soucier de qui étaient ces ouvrières et ces ouvriers agricoles, qui étaient tout le temps, de façon unanime, des descendants d'esclaves. Et donc on perpétue le fait de déverser, c'est cette culture des déchets qui est dénoncée par le pape, mais de déverser toujours ce qui est plus toxique sur la tête des plus précaires. Et je crois, moi, que ça va ensemble, parce que si on avait prêté attention d'abord et avant tout à la dignité humaine, on n'aurait pas détruit la planète comme on l'a détruite aujourd'hui. Et donc je crois que c'est ça qu'il faut réussir à retrouver, à renouer, et ce qui doit être une boussole pour les politiques à mettre en place.
On me glisse à l'oreille que c'est une intervention courte que je dois faire. Ma question, c'est, Marie Toussaint, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous pouviez pas toujours agir comme vous le souhaitiez. Notamment, vous avez cité les amis d'ATD qui ont pu avoir des actions que vous pouviez pas mener aujourd'hui. Vous l'avez dit deux fois. Je travaille pour le Secours catholique. Et du coup, la question que j'ai, c'est après une loi asile immigration, après une sensation de la destruction du corps intermédiaire, comment on peut porter un peu ce cri des pauvres et le fait de embarquer avec nous des personnes dans une lutte qu'on parfois on sent insaisissable et complètement inaccessible en fait au regard du politique. On a l'impression qu'on ne nous entend plus. Et donc peut-être François et Marie, quel message pour conclure vous pourriez nous donner pour un peu continuer cette lutte-là sans désespérer dans la société actuelle?
C'est une bonne question. Je crois qu'il faut toujours valoriser le combat, même quand il n'a pas nécessairement d'issue positive. Mais en même temps, en accompagnant les gens et soi-même, à ne pas s'essouffler complètement. Par exemple, là, je viens vous voir, je suis malade, je sais pourquoi je suis malade. Je sais ce qui s'est passé dans les semaines qui viennent de s'écouler pour que je sois malade. Et voilà. Alors, c'est pas nécessairement que j'ai pas pris soin de ma santé. Et il y a un sujet dont je veux vous parler avant de clore d'ailleurs, mais vous m'en offrez la possibilité, mais j'ai passé un peu plus d'une semaine avec une famille endeuillée par le narcotrafic à Marseille. Et c'est de ça dont je veux vous parler, mais j'y reviens juste après. Et après, je suis allée en session plénière à Strasbourg, où on a des horaires intenses. Et quand je suis rentrée à la maison, paf, je suis tombée malade. Et donc, faut essayer de pas s'essouffler soi et de pas essouffler les gens avec qui on combat. Et donc de réussir à être à leur côté de façon durable, durable pour eux, durable pour soi. Je pense que c'est aussi quand même quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, je reparle d'ATD Quart-Monde, mais je crois que Martine Lecor, qui a été une militante, donc issue de la grande pauvreté, et qui a été à la direction d'ATD Quart-Monde, a secoué un peu les puces des volontaires permanents en disant « Mais en fait, si vous venez avec vos problèmes, vous nous aidez pas. Donc venez, libérez-vous de vos problèmes avant de venir mener le combat avec nous. » Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et dont il faut vraiment se rappeler. Et puis, il y a quand même des combats qu'on réussit à faire, qu'on réussit à mener jusqu'à la victoire. Et parfois des petits combats, mais c'est quand même important. Je vous ai parlé d'aire d'accueil tout à l'heure. Je suis très amie avec un groupe de femmes qui ont monté une association qui s'appelle Dasovas. les mamans se sont battues, puis c'est les filles qui ont repris, elles ont mené une lutte incroyable, et elles ont réussi, il y a un mois et demi, à enfin être logées. Alors, c'est pas toutes les familles de l'air, c'est seulement la moitié, mais elles ont réussi à être logées. Alors, le combat est pas fini, le terrain est inondable, il y a toujours pas de douche, mais voilà, il y a quand même des moments où il y a une prise de conscience que les conditions dans lesquelles elles vivaient étaient pas tenables, qu'il fallait trouver des solutions. C'est pas simple, mais en fait, ça marche. Et ce type de victoire, aussi petite soit-elle, aussi temporaire quelque part soit-elle, donne vraiment beaucoup d'espoir, beaucoup de force aussi. Et ça donne la force pour continuer aussi d'autres combats qu'on pense perdus d'avance, mais qui en fait le sont pas, parce que parfois on met des siècles et des siècles à mener des combats, et puis ça finit par arriver, et donc voilà, on sait pas quand ça revient au beau fixe, mais il faut continuer à garder cet espoir-là. Je vous parlais du narcotrafic, je vois effectivement, je finis par me faire taper sur les doigts parce que je parle trop longtemps, mais non, je pense que c'est important, parce que je pense que c'est aussi une démonstration de cette nécessité d'agir avec. Alors le pape ne parle pas de narcotrafic dans son exhortation, mais moi, je crois, je parle notamment du combat d'Amin Kessassi, qui est donc un ami qui a 22 ans, qui s'est toujours battu au lycée, enfin, même dès le collège, je crois, il se battait, voilà, avec ses camarades, était délégué de classe, il organisait des collectes de déchets parce qu'il pensait que dans les quartiers, il fallait que tout le monde vive dignement, donc ça voulait dire pas avec des déchets partout. Il s'est battu pour les lycéens professionnels, etc. Et voilà, le narcotrafic lui a arraché un premier frère. Et il s'est battu, il s'est engagé auprès des familles de victimes. N'importe quelle heure du jour et de la nuit à Marseille, on l'appelle, il y a un meurtre, malheureusement il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et il est là pour les familles, il s'engage, il essaie de trouver des activités pour que les jeunes fassent autre chose que de céder à cet attrait de l'argent rapide et facile. Et il s'est beaucoup engagé, et malheureusement on lui a fauché un autre frère. Mais dans les messages qui passent, il dit oui, on a besoin que la police fasse son travail, que la justice fasse son travail. D'ailleurs, pendant longtemps, les États n'ont pas fait leur travail parce qu'ils ne sont pas allés chercher l'argent caché dans les paradis fiscaux, l'argent qui partait à Dubaï, etc. Mais il dit aussi, il faut faire avec nous. Il faut faire avec nous, les familles de victimes, il faut faire avec nous, les habitants des quartiers populaires où se déploie le narcotrafic, parce que si vous n'agissez pas avec nous, alors vous ne trouverez pas quelles sont les solutions, quels sont les moyens pour que on ne cède pas à l'attrait de cet argent facile. Vous ne saurez pas non plus, de façon très prosaïque, où il se cache et comment il fonctionne. Vous ne saurez pas qu'il nous offre des piscines de temps à autre parce qu'ils ont pris une véritable emprise. Et si vous ne respectez pas notre dignité, alors on ne pourra pas s'en sortir, et alors ils ont un terreau fertile pour déployer leurs activités, qui sont des activités qui ramènent de l'argent, mais aussi des activités meurtrières. Et je crois, voilà, ça c'est vraiment... voilà, peut-être le message final, et merci pour votre question, parce que ça paraît détourné, mais en fait, le cœur est là. Je crois que faut faire tout ce qu'on peut, et on a chacun ses propres limites qu'il faut fixer, mais il faut faire tout ce qu'on peut pour être aux côtés de ceux qui se battent et qui ont besoin qu'on soit là, et de ceux qui ont envie de se battre et qui n'en ont pas encore la force. Voilà, mais je crois que c'est notre travail au quotidien. C'est pas toujours facile à articuler avec nos vies, mais je crois que c'est par là qu'on peut, voilà, retrouver le chemin de l'espérance, et j'aurais cité beaucoup de gens d'Athée des Clermont ce soir.
Moi, je dirais que ce qui me donne de l'espérance, c'est que la fraternité a déjà commencé. C'est-à-dire que ce que je vis au Secours catholique, c'est que même si la fin de la misère est pas pour demain matin, en attendant, et dans des vies où il y a beaucoup de galères et dans des vies qui ont la forme de combat, déjà on vit la fraternité, elle a déjà commencé. La gratuité aussi a déjà commencé. La gratuité des partages, la gratuité du chemin partagé, la gratuité de la prière de beaucoup de personnes. J'étais à Lourdes il y a quelques jours avec un certain nombre de personnes du Secours catholique. Voilà, la gratuité des gestes de cette prière aussi. Voilà, la fraternité a déjà commencé. Moi, ça me donne vraiment de la force et même de la joie. Merci.
Voilà. Merci beaucoup pour cette belle soirée. Merci d'être venu, bien que malade. Donc la prochaine réunion des mardis d'éthique publique aura lieu le 13 janvier, donc pas le 6, le 13, et elle a pour thème « Élection, les chrétiens face aux extrêmes ». Donc nous vous attendons avec joie pour ce nouveau mardi d'éthique publique. Je vous rappelle, avant de partir, que si vous souhaitez contribuer à l'organisation de ces mardis d'éthique publique, vous avez la possibilité de verser votre obol soit dans une corbeille, soit avec une machine
qui permet de régler en carte de crédit. Voilà, je vous remercie infiniment et très bonne soirée.